France Culture.
Как топчут дорогу по снежной целине.
Comment trace-t-on une route à travers la neige vierge?
Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом, глубоком снегу.
Varlam Chalamov. Les sentiers gelés de la Colima. Laetitia Leguet. Franck Lilin.
Les montagnes de la Vergansk. La taïga. Ça, c'est inouï. On se revoit dans un film de... Les arbres sont enserrés dans un cocon de gel.
La Colima... le paysage, enfin ces fameux sopki, donc c'est-à-dire ces collines dont parle Chalamov, ça m'a beaucoup rappelé les paysages, je dirais, presque du massif central français ou des Vosges, c'est-à-dire ce sont des hauts plateaux, des collines assez hautes, dans les entre 1000 et 1500 mètres, des formes extrêmement harmonieuse, d'une très grande beauté, et d'ailleurs Chalamov note très souvent ce paradoxe de la beauté de la nature et de la brutalité extrême et de l'horreur de l'univers concentrationnaire. Il y a un contraste là qui est un vrai sujet de littérature, d'inspiration.
Les forêts de mélèze. Les camps du goulag. Ça, c'est le camp qu'on a trouvé après ces 8 heures de motoneige. Ça, c'est la route du gel. Voilà. Ça, c'est l'intérieur d'une chambrée dans un camp. Bon, évidemment, ça tombe en ruine. Hein. Mais enfin, ça a quand même bien résisté. Hein. On peut y aller avec ça. C'était pas plus que ça. Bon, les miradors. Non, c'était pas plus que ça, hein. Ça, c'est, voilà, ça fait partie des vestiges qu'on trouve. Ça, c'est vraiment, ça a été construit par les Zecs, hein. Je sais plus où c'est, ça.
Cette topographie où le goulag est omniprésent par les bâtiments de l'administration, où il y a des camps tout autour, des restes de camps. Il reste d'ailleurs de moins en moins.
Enfin, il existe plusieurs photographies de Chalamov. Et où il a un visage très, très ouvert. On voit encore quelqu'un qui est très, enfin, qui est confiant dans la vie. Et progressivement, ce visage qui est très beau se referme, puis jusqu'à la photo, cette photo de où on le voit soudain vieilli. On a l'impression que il dit lui-même que la personne qui a passé des années dans le camp sort du camp à l'âge où il est entré. Et il a un poème dans lequel il dit « Je mourrai gamin » parce que voilà, j'ai commencé mon trajet concentrationnaire très jeune.
Comme j'ai découvert le goulag en tant qu'historien à travers les archives du goulag, c'est-à-dire des documents essentiellement administratifs, bureaucratiques.
Nicolas Werth.
Il était absolument nécessaire d'avoir le contrepoint de l'expérience humaine du Zec qui est magnifiquement rendue dans l'œuvre de Chalamov.
Alors j'aimerais peut-être lire quelques lignes du premier texte qui s'appelle « Sur la neige ». Comment peut-on tracer une route à travers la neige vierge ? Un homme marche en tête. Suant et jurant, il se déplace à grand-peine et s'enlise constamment dans la neige molle et profonde. Il s'en va, loin devant, et des trous, noirs et irréguliers, jalonnent sa route. Lorsqu'il est fatigué, il s'allonge sur la neige, allume une cigarette, et la fumée forme un petit nuage bleu au-dessus de la neige blanche et étincelante. Quand l'homme est reparti, le nuage plane encore là où il est arrêté. L'air est presque immobile. C'est toujours par de belles journées qu'on trace les routes pour que les vents ne balaient pas le labeur humain. L'homme choisit lui-même ses repères dans l'infini neigeux, un rocher ou un grand arbre, et il meut son corps sur la neige comme l'homme de barre conduit son bateau sur la rivière d'un cap à l'autre.
On voit des gens qui tracent une route. Et si on ne connaît pas l'histoire de Chalamov, on ne comprend pas qui sont ces gens.
Luba Jurgensen.
Parce qu'il n'y a pas un mot sur le camp. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de barbelé, il n'y a rien. Il y a des gens qui marchent dans la neige, qui tracent une route. Ils peuvent être des explorateurs, des géologues, des soldats, que sais-je. Et puis, en lisant un autre récit qui date des années 60, on découvre que les gens qui tracent les routes, les gens qu'on envoie tracer les routes, sont des personnes qui se sont automutilées, qui n'ont plus de mains ou plus de bras, sont des manchots. Et donc, on imagine cette procession de manchots à la Bruegel. Enfin, c'est une image incroyable, mais elle est cachée. Voilà, il faut lire un autre récit et le lire très, très attentivement plusieurs fois pour comprendre qui sont ces gens. Et pour comprendre que là, déjà, Chalamov met en scène des personnes qui n'ont pas de bras, qui ont perdu l'organe de l'écriture.
Donc là, on a une description par Chalamov du travail au camp, où des hommes, épaule contre épaule, essaient de tracer une route qui ne mène nulle part.
Stéphane Barsac.
Et donc on voit la neige, et puis on ne voit plus rien. Et à la fin, les hommes qui luttaient contre les aimants ne sont plus là non plus. Et en quelques lignes, en fait, ils nous communiquent un sentiment d'étrangeté, une absurdité, une défaite. Et le fait qu'il arrive à le dire nous saisit.
Chalamov a eu cette enfance comme fils de prêtre, de pope, dans une petite ville de province. Je connais bien Vologda, c'est une de ces petites villes provinciales russes, surtout du nord, que j'aimais beaucoup, avec ses églises, et en général, voilà, cette atmosphère très particulière de ces petites villes provinciales du nord de la Russie, entourées de paysages absolument bucolique, somptueux, la nature vraiment préservée.
Il a grandi dans une ville qui intellectuellement et culturellement était très très vivante. Son père était un prêtre, comme vous savez, les prêtres orthodoxes ont le droit de se marier, d'une famille assez nombreuse, mais il était le petit dernier. Je crois que ça, la sœur qui le précédait a été une dizaine d'années ou 7 ou 8 ans plus âgée que lui.
Sophie Bénèche.
Donc il était le petit dernier, il était né en Russie, son père avait longtemps travaillé sur les îles Aléoutiennes comme missionnaire, et donc il était revenu avec tous ses enfants. Lui, Varlam est né là, son nom lui a été donné en l'honneur du saint patron de Vologda, Varlam. C'est Varlaam, il a enlevé un A parce que c'était son nom, ce qui est un nom quand même assez rare. Il a donc grandi avec son père prêtre qui lui a donné une éducation très stricte, qui était extrêmement dominateur, avec lequel apparemment il a eu beaucoup de problèmes de... Son père était un pêcheur, chasseur, assez dur et qui voulait que son fils soit plus viril. Lui, il raconte comment il détestait tuer les animaux et comment il passait son temps plongé dans les livres. Il raconte même une anecdote où son père, parce qu'il lisait à toute vitesse, et donc il lui a dit « mais c'est pas possible, tu lis trop vite, là, tu retiens rien ». Et il dit « si, si, papa, je me souviens très bien de tout. Bon, on va prendre ce livre-là, qu'il avait lu un an plus tôt, raconte-moi l'histoire ». Il lui raconte en détail l'histoire, il dit « bon, bon », dit le père, « effectivement, tu te souviens, mais est-ce que t'as compris ce que tu as lu? Je suis sûr que t'as pas compris les nuances ». Et lui, il répond « oui, effectivement, peut-être, papa, j'ai pas compris les nuances ». Voilà l'éducation que lui donnait son père, qui par la suite est devenu aveugle, d'ailleurs. Et au moment de la Révolution, comme il faisait partie des classes qui étaient persécutées par les révolutionnaires, puisqu'il était un prêtre, il a assisté au pillage de sa maison, par exemple, parce que les révolutionnaires sont arrivés chez eux, on leur a pris toutes leurs affaires, on les a relégués dans une pièce de l'appartement dans lequel ils vivaient, et pourtant ils ne vivaient pas dans des conditions particulièrement riches, hein. C'était assez modeste la façon dont ils vivaient.
Et il rend hommage à son père dans cet extraordinaire texte où l'on voit ce vieux prêtre devenu aveugle qui n'a plus rien pour subsister parce que les conditions de vie des membres du clergé à l'époque soviétique et en particulier dans les années 20 et 30 étaient évidemment terribles. C'était une véritable paria. Ils étaient privés de tous leurs droits. Ils étaient vraiment réduits à la misère, et réduits à la misère, ça voulait dire vraiment acculés à la famine, et leur seule richesse, c'était cette croix, soit en argent, en or, voilà, et donc la tentation est grande de vendre la croix pour acheter à manger, et évidemment, dans un geste, le prêtre va casser la croix à la hache, et donc ça c'est quelque chose, enfin c'est une des scènes magnifiques parmi beaucoup d'autres, un moment magnifique dans l'œuvre de Chalamov.
Et comme il était fils de prêtre, il n'a pas eu le droit de faire d'études à Vologda. Il a trouvé le moyen de partir à Moscou, où il a travaillé un certain temps. Ensuite, il est arrivé quand même à rentrer à l'université. Et quand il s'est retrouvé à Moscou, dans les années 20, enfin, les années 20 ont été une période extrêmement riche dans la vie culturelle russe. Il y avait beaucoup de mouvements différents qui coexistaient. Il y avait les futuristes, les acmistes, les futuristes, les imaginistes. Il y avait toutes sortes de mouvements, une grande vie culturelle effervescente, avec des conférences, des rencontres, des revues qui paraissaient, des journaux. C'était également la période de la NEP. On a libéralisé un peu l'économie, qui fait que tout de suite, immédiatement, tout a repris. Des petites entreprises se sont créées, une petite maison d'édition, tout s'est remis à fonctionner, en fait, jusqu'à 29, qui a été l'année du grand tournant, où tout a été arrêté, la NEP a été arrêtée.
Bon, on sait que le système concentrationnaire soviétique, stalinien, s'est véritablement constitué à partir de 1929, au moment de la collectivisation forcée des campagnes et de ce décret fondamental de juin 1929 qui prévoyait que toutes les personnes détenues dans les prisons pour plus de 3 ans serait désormais envoyé dans des camps de travail pour libérer un maximum de main-d'œuvre pour assurer la mise en œuvre des grands chantiers du premier plan quinquennal. Globalement, on peut dire que c'est à partir de 1929 que le goulag tel que qu'on le connaît se forme.
J'ai été arrêté le 19 février 1929. Je considère ce jour et cette heure comme le début de ma vie sociale, ma première véritable épreuve dans des conditions très rudes. Il m'était donné d'éprouver mes véritables qualités morales. Je suis reconnaissant à la prison des Boutyrki de m'avoir laissé mener seul dans une cellule la quête de la formule dont j'avais besoin pour vivre. Aucun abattement, non. Comme si tout cela, le sol en ciment, les grilles, je les connaissais depuis longtemps. Je l'avais déjà vécu en songe, imaginé. J'avais réussi à trouver cette forme de vie dont l'extrême simplicité a été affinée par l'expérience de générations d'intellectuels russes. L'intelligentsia russe sans la prison, sans l'expérience de la prison, n'est pas tout à fait l'intelligentsia. Donc en fait, il a pris sa première incarcération comme une chance en fait, comme une épreuve qui lui était donnée pour se découvrir lui-même. C'était un révolutionnaire idéaliste. Le livre dont il parle, qu'il a le plus marqué, c'est un livre d'un révolutionnaire qui explique que pour apprendre à lutter, il s'entraîne à coucher sur des pics comme les fakirs. Vous savez, il faut apprendre à tout supporter pour être un révolutionnaire capable du sacrifice.
Chalamov est arrêté en 29 et jusqu'en 32, donc il est condamné à 3 ans de travaux forcés dans les camps de la Vichera. La Vichera, donc, c'est dans l'Oural. Et cette première expérience va évidemment le marquer très fortement. C'est vraiment sa rencontre avec l'univers des camps de travail forcé. Mais les camps de la Vichera, aussi durs soient-ils, étaient quand même moins durs sur toute une série de plans, y compris sur le plan climatique et puis surtout de la férocité de l'exploitation, ne peuvent pas se comparer, enfin, véritablement avec les camps de la Colima. Donc, il a connu un peu les premiers camps, si l'on peut dire, administrés d'ailleurs par Berzine, qui va devenir ensuite le responsable des camps de la Colima. On peut dire qu'il a une sorte d'avant-goût de cet univers concentrationnaire, mais les conditions de travail et les conditions de vie vont être incomparablement plus dures encore à la Colima, où il est envoyé à partir de 37, où il va rester 17 ans, essentiellement en camp.
Il est considéré comme un trotskiste, alors qu'il n'a jamais été trotskiste, qui est la pire accusation qu'on puisse avoir du point de vue politique à l'époque. Il se retrouve en prison, il passe en jugement, et ensuite il est envoyé à la Colima. Lui-même considère, quand il est arrêté pour la deuxième fois, qu'il est déjà un vieux routier des prisons. Il donne des conseils aux gens dans la cellule, il leur explique que la prison, c'est pas si mal. La prison, on n'a pas besoin de travailler, les conditions sont terribles, évidemment, mais ce qui se passe dans les camps est pire. Mais personne ne le croit, parce qu'on ne croit qu'à son propre expérience.
En juin 1937, s'achevaient mes 18 mois de tribulation à la prison des Boutyrki, liée à l'instruction. J'étais condamnée à 5 ans de camp à la Colima et je fus transférée dans le bâtiment réservé au convoi, une grande église. Les 4 étages, les 5 couloirs avec des cellules et la musique féroce des verrous de prison avaient facilement pris place dans la nef. Je souffrais de la chaleur, mais j'avais le cœur solide, je tenais le coup. Les chalits étaient vides, désertés. Tout le monde s'était fourré dessous. Il y faisait quand même plus frais, les rayons de soleil n'y pénétraient pas. Quelque chose émanait d'un de ces corps nus, que ne rafraîchissait aucune brise, malgré tout ce que faisait ce corps pour se mettre dans un courant d'air. Ça marmonnait. Je m'approchais. « Ce sont des vers, » dit l'homme, ôtant ses grosses lunettes sans monture et ouvrant de timides yeux bleus. « Vous êtes qui ?»« Je m'appelle Hermann Horloff. Il y a des poésies que je sais encore. Je me rappelle Le corps de Roland, de Tsvetaeva. Je me rappelle deux poésies de Rodasevitch. Je joue aux cartes et Anne Marinchen. Pour retenir quelque chose, il faut que je l'écrive, mais il n'y avait ni papier ni crayon. Je m'assis à côté de Horloff sur le chalet et il me récita Le corps de Roland. Je le répétai avec une petite erreur. Horloff me corrigea et je répétai le poème sans faute. Il me redit aussi « Je joue aux cartes, bois du vin » et « Anne Marinchen ». Je n'eus pas le temps de répéter ces deux poèmes. La porte s'ouvrit avec fracas. On appela Horloff et je ne l'ai jamais revu. Le lendemain matin, je répétais tout sans difficulté. Ces trois poésies, je les ai retenues pour le restant de mes jours, bien que juste devant moi, 17 années à la Colima.
Qu'une seule route qui permet de joindre cette ville, donc Yakoutsk, à Magadan, sur la mer d'Okhotsk.
Mikhaël Prazan.
Donc en face de la pointe sud de l'île d'Hokkaido. C'est vraiment la Sibérie orientale, c'est l'endroit le plus froid du monde, c'est la plus grande région du plus grand pays du monde. Et on l'appelle l'enfer blanc, parce que c'est vraiment un désert de glace. C'est une région qui cumule un certain nombre de records, et notamment, c'est l'endroit le moins peuplé de la planète. Pour cette même raison, il fait entre moins 50 et moins 70 degrés durant l'hiver, sachant que l'hiver dure la moitié de l'année. Il y a un été qui est très chaud, mais très court, il n'y a pas de semi-saison. Et surtout, lorsque vient l'été, c'est une région qui est sillonnée par de nombreux fleuves, et il y a la crue des fleuves qui enferme littéralement cette région dans une île, et c'est pour ça que les habitants de cette région appellent la Russie centrale le continent. Et lorsqu'il y a la crue de ces fleuves, eh bien, la plupart des tronçons de cette route est submergée, ce qui la rend proprement inaccessible. Et c'est sur cette route, notamment, et bien d'autres choses, et notamment dans les minorifères, que Varlam Shalamov a travaillé. Et il y avait tous les jours des dizaines de morts sur cette route, et on rassemblait les morts à la fin de la journée, qu'on enterrait sur le bas-côté de la construction de la route, dans des fosses communes. Et c'est pour cela qu'on a appelé, ou que les locaux ont appelé cette route, la route des ossements.
Comment trace-t-on une route à travers la neige vierge ? Un homme marche en tête, suant et jurant. Il déplace ses jambes à grand-peine, s'enlise constamment dans une neige friable. Profonde. Il s'en va loin devant. Des trous noirs irréguliers jalonnent sa route. Fatigué, il s'allonge sur la neige, allume une cigarette et la fumée du gros gris s'étale en un petit nuage bleu au-dessus de la neige blanche étincelante. L'homme est reparti. Mais le nuage flotte encore là où il s'était arrêté. L'air est presque immobile. C'est toujours par de belles journées qu'on trace les routes pour que les vents ne balaient pas le labeur humain. L'homme choisit lui-même ses repères dans l'infini neigeux. Un rocher, un grand arbre. Il meut son corps sur la neige comme le barreur conduit son bateau sur la rivière d'un cap à l'autre. Sur la piste étroite et trompeuse ainsi tracée, avance une rangée de 5 à 6 hommes. Ils ne posent pas le pied dans les traces, mais à côté. Parvenus à un endroit fixé à l'avance, Ils font demi-tour et marchent à nouveau de façon à piétiner la neige vierge là où l'homme n'a encore jamais mis le pied. La route est tracée. Des gens, des convois de traîneaux, des tracteurs peuvent l'emprunter. Si l'on marchait dans les pas du premier homme, ce serait un chemin étroit, visible, mais à peine praticable, un sentier au lieu d'une route. Des trous où l'on progresserait plus difficilement qu'à travers la neige vierge. Le premier homme a la tâche la plus dure, et quand il est à bout de force, un des cinq hommes de tête passe devant. Tous ceux qui suivent sa trace jusqu'au plus petit, au plus faible, doivent marcher sur un coin de neige vierge et non dans les traces d'autrui. Quant aux tracteurs et aux chevaux, ils ne sont pas pour les écrivains, mais pour les lecteurs.
C'est une vie très réglementée, pour le moins, très organisée. Avec des normes de travail, des normes de rationnement. Je crois que vraiment le mot norme, c'est ce qui fait le quotidien des prisonniers et donc des zecs, des prisonniers du goulag. Tout est absolument normé dans la journée, dans les rations de nourriture, dans ce qui peut être aussi des divertissements, parce que c'est des choses qu'on a du mal à imaginer, mais... comme il y avait une partie de l'intelligentsia qui se retrouvait piégée dans ces camps, eh bien, il y avait une vie culturelle très riche. Vous savez, le goulag revêt beaucoup de réalités très différentes et très contrastées. Mais c'était le cas, par exemple, dans les camps dont il ne subsiste rien aujourd'hui, sinon la ville elle-même de Magadan, qu'on appelle la capitale des Zecs, qui est vraiment une ville qui est sortie de terre, qui a été construite par les Zecs pour les Zecs.
C'est un tableau extrêmement complet que donne Chalamov, à la fois de cette micro-société qu'est celle au fond de chaque camp, des rapports à l'intérieur du camp entre les différentes catégories de détenus, avec une insistance évidemment très grande et très forte sur l'univers des truands, le rôle des droits communs les plus endurcis de la pègre, qui a une fonction stratégique dans le camp, puisque l'administration leur a délégué la tâche de rendre la vie impossible à tous les autres, et en particulier aux politiques. On a découvert au fur et à mesure que s'ouvraient les archives du Goulag, par exemple, qu'après la guerre, les détenus recevaient un petit salaire. Enfin, en tout cas, dans un certain type de camp, un certain type de détenus. Et puis, avec ça, ils cantinaient, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller au magasin du camp acheter des choses. Mais ça reste quand même un peu marginal par rapport à cette véritable économie du troc et du non-numéraire qui est centrée sur l'obtention par les colis de nourriture, et étant donné que la nourriture, qui est un thème absolument central dans ces récits de la Kolyma, puisqu'au fond, c'est la survie des zecs qui dépendent de la ration qu'ils reçoivent, enfin, il y a tout un engrenage, puisque au goulag, il y a cette équation mortifère, vous recevez votre nourriture en fonction de la norme que vous remplissez. Donc ça, c'est le cœur du fonctionnement du goulag et son côté absolument, disons, mortifère, puisqu'au fond, le détenu va essayer de remplir la norme pour pouvoir survivre, mais l'effort qu'il fait pour recevoir cette norme de nourriture est beaucoup plus grand que la différence de nourriture qu'il reçoit en faisant un gros effort. Et donc, c'est une course à l'abîme et une course sans espoir. Et recevoir un peu de nourriture de l'extérieur est évidemment un gage de survie pendant quelque temps.
Dans notre brigade, le porteur d'outils était un garçon de 16 ans, un écolier d'Erevan condamné pour l'attentat contre Han Jian, le premier secrétaire du comité de district d'Erevan. Ce garçon avait eu droit à une peine de 20 ans. Il mourut très vite, il ne supporta pas les rigueurs de l'hiver de la Colima. Bien des années plus tard, j'ai appris dans les journaux la vérité sur la mort de Han Jian. En fait, Beria l'avait tué de ses propres mains dans son bureau. Et toute cette histoire, la mort de l'écolier dans le gisement de la Colima, m'est alors revenue en mémoire. J'avais très envie d'être porteur d'outils, ne fût-ce qu'une journée, mais je comprenais que ce garçon, cet écolier avec ses doigts gelés, emmailloté dans des moufles sales et la lueur affamée de ses yeux, était un candidat plus approprié que moi. Il ne me restait que la brouette.
Parce qu'il a des récits très très concrets. Je me souviens avoir traduit le récit sur la brouette, par exemple, où il raconte comment il est devenu un as de la brouette. Qu'il n'oubliera jamais, jusqu'à la fin de sa vie, il saura construire une brouette. Il explique comment, dans les mines d'or, on construisait des chemins pour la brouette avec une planche et qu'il fallait, avec une brouette extrêmement difficile à manier et très très lourde, il fallait pas dérailler de la planche sur laquelle on était, comment il fallait apprendre à tourner, à la lever. Et c'est plein de termes très techniques où il décrit le processus physique. Et à travers ce processus physique, il y a tout un processus intérieur aussi qui se comprend sur la manière de supporter l'effort, de supporter les choses qui ont l'air insupportables, pas à pas. Donc il y a le côté très concret, le côté très sobre, qui est beaucoup plus fort d'ailleurs que des choses plus lyriques ou plus sentimentales.
C'est une prose qui reproduit une écriture documentaire, sans être pour autant quelque chose, un document d'archives. Cette prose, pourquoi elle est nouvelle, c'est qu'elle décrit un état humain qui n'a encore jamais été décrit dans la littérature. Cet état humain, c'est l'état de l'être humain entre la vie et la mort. En fait, il s'agit de l'état du Dharadiag, à savoir le détenu qui est arrivé à la dernière extrémité, qui est encore vivant, mais qui peut à tout moment basculer dans la mort. Et alors, cet état s'apparente, d'après tous les signes qu'on peut lire dans la littérature du goulag, c'est la même chose que le musulman dans les camps nazis. Le musulman dans les camps nazis a été décrit, il y a eu des travaux d'anthropologues pour comprendre sur le plan humain et aussi médical ce que c'est cet état d'épuisement total, donc où la personne bouge encore, mais ne réagit pas, enfin se retranche complètement de tout contact avec les autres, enfin n'entre plus en communication avec les autres, n'est plus capable de manifester aucune volonté, et où finalement est totalement indifférente à sa propre mort. Dans les camps nazis, les musulmans ont été envoyés dans les chambres à gaz, et donc on n'avait pas de témoignages de personnes qui sont passé par cet état, sauf le témoignage de Robert Antelme. Enfin, parmi les textes connus, bien sûr, Chalamoff n'en avait pas connaissance. Et il pensait être le premier à décrire cet état entre la vie et la mort.
C'est qu'il écrit comme s'il était déjà mort. Et ça se sent à travers son livre, qui effectivement communique une impression absolument extraordinaire, c'est-à-dire d'un rendu qui n'est pas celui simplement de l'émotion, qui va bien au-delà, qui nous saisit à la racine, comme si quelqu'un venait d'ailleurs pour nous raconter quelque chose que personne n'a jamais raconté.
Il raconte souvent la même histoire ou la même scène ou le même moment de plusieurs façons différentes, parfois avec des protagonistes différents, parfois avec un « je », parfois avec un « il ». Chalamov a dit lui-même que les répétitions étaient très importantes et que c'était ce qui donnait une sorte de rythme aussi à sa manière de raconter. C'est comme une bande magnétique qui repasse dans la tête, comme une façon de revivre l'événement plusieurs fois, mais sous plusieurs angles différents. Quand il raconte quelque chose qui est prouvé, qui est vécu par un détenu de la Kalima, il parle de lui. C'est plus qui est lui-même et qui est l'autre. Il parle au nom des autres et en même temps au nom de lui-même. C'est comme si, arrivé à un certain point de déshumanisation, on devenait un peu tout le monde. Ça n'a plus d'importance de savoir si c'est lui qui est mort ou l'autre. Parce que lui est mort aussi, l'autre est mort. Il y a quasiment plus de frontières en même temps. Plus de frontières entre...
Rybakov montra sa boîte à moitié vide, le soleil qui déclinait à l'horizon, et il se mit à progresser lentement vers les baies magiques. Un coup de feu claqua et Rybakov tomba sur les buttes, face contre terre. Tout en brandissant son fusil, Sierochapka cria « Laissez-le là où il est, n'approchez pas ». Il rechargea et tira un autre coup. Nous savions ce que ce deuxième coup de feu voulait dire. Sierochapka le savait aussi. Il devait toujours y avoir deux détonations. La première est une simple sommation. Couché sur les buttes, Rybakov semblait étonnamment petit. Le ciel, les montagnes et la rivière étaient immenses. Et Dieu sait combien on peut coucher d'hommes dans ces montagnes, sur les petits sentiers entre les buttes. La boîte de Rybakov avait roulé au loin. Je réussis à la ramasser et à la cacher dans ma poche. Peut-être qu'on me donnerait du pain en échange de ces baies. Je savais bien pour qui Rybakov les avait cueillies. Sierochapka fit tranquillement mettre en rang notre petit détachement, nous compta, nous donna l'ordre d'avancer et nous ramena au camp. Du bout de son fusil, il me donna un petit coup sur l'épaule et je me retournai. « C'est toi que je voulais, » dit Sierochapka, « mais tu n'es pas allé t'y mettre, mon salaud. »
Comment raconter sa propre mort ? Voilà. Parce que Chalamov est un revenant plus qu'un survivant. Dans les camps soviétiques, un Dakhadiag pouvait, grâce à un miracle, revenir à la vie. Si bien qu'on a des... témoignages de personnes qui ont passé plusieurs fois par cet état. Et c'est le cas de Chalamov. Et donc, comment raconter sa propre mort ? C'est la question qu'on perçoit en filigrane dans les récits de Chalamov. Et donc, on a un certain nombre de récits dans lesquels apparaissent des doubles. Donc, ses camarades qui ont disparu ont souvent le rôle du double qui meurt. C'est-à-dire que deux descendent au tombeau et un seul en sort. Mais ces deux n'en forment qu'un. Mais on a plusieurs couples comme ça qui, par exemple, justement dans le récit Les Baies, le camarade qui est tué, le gardien lui dit ensuite « c'est toi que je visais ». Mais à sa place, il a tué l'autre, mais qui est aussi lui. De même, dans le récit qui s'appelle Le Silence, il y a un certain nombre de récits dans lesquels on voit un coéquipier qui est tué et en fait ses coéquipiers changent de place. C'est-à-dire que les biographies, la biographie de celui qui dit « je » et les biographies des coéquipiers sont échangeables à travers les récits. Donc celui qui a les caractéristiques de l'autre va devenir « moi » dans un autre récit. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'en fait c'est des doubles et qui sont interchangeables, et qu'en racontant la mort du coéquipier, il raconte sa propre mort.
Puis il y a des scènes absolument d'une force incroyable. J'ai oublié le titre de cette nouvelle, mais c'est un détenu qui vole un cochon de lait gelé, qui l'emporte, il se réfugie et il va grignoter voilà, ce morceau congelé. De... Il y a des tableaux comme ça dans des nouvelles centrées bien sûr sur la nourriture, sur le petit bout de pain qu'on va emporter, faire griller sur un de ces poêles rudimentaires qu'on garde, le pain qu'on mâchonne jusqu'à ce qu'il pendant aussi longtemps que possible. Oui, bien sûr, la question de la nourriture, de la survie, est au centre, au cœur de ces récits de la Colima.
Il y a comme ça plusieurs récits où l'impassibilité, où cette impassibilité est un... C'est une façon de montrer la déshumanisation, la disparition des sentiments et des émotions. Souvent, ce sont des récits où le narrateur est ému par la souffrance des animaux, plus que par la souffrance des hommes. Chalamov lui-même établit une sorte de grille des émotions. Il répond bien à cette question lui-même, puisque dans plusieurs récits, il décrit la progression de la déshumanisation, et ça aussi, c'est sa découverte en quelque sorte dans la littérature, c'est-à-dire que les émotions s'en vont avec le corps, avec l'amenuisement du corps, l'épuisement du corps cause la disparition des émotions. C'est-à-dire qu'il va complètement à l'encontre de la grande littérature russe, avec ses grands sentiments, et cette certitude que l'esprit est plus fort que le corps. Chalamov dit non, l'esprit n'est pas plus fort que le corps, c'est le corps qui l'emporte. Et lorsqu'on n'a plus de muscles, ben, on n'a plus de sentiments. Donc il décrit la disparition progressive des sentiments. Donc le dernier sentiment qui reste au détenu exténué, avec lequel il s'en va dans la tombe, c'est la rage. Alors on a une palette là des sentiments humains qui ne collent pas du tout avec la pensée humaniste. En ce sens, Chalamov est un anti-humaniste. C'est-à-dire, c'est là aussi qui se montre d'une grande modernité, en ce sens qu'il remet en question l'humanisme européen, qui n'a pas empêché Auschwitz, qui n'a pas empêché la Colima.
En 43, donc, il a été de nouveau condamné. À ce moment-là, en fait, la lettre T qui faisait partie de sa condamnation, trotskiste, a été, par miracle aussi, il le raconte dans un de ses récits, supprimé de son dossier, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec juste KRD. Ça lui a beaucoup servi d'avoir cette nouvelle condamnation, il a sûrement échappé au pire. Et donc il a été de nouveau condamné, il s'est retrouvé de nouveau dans des mines d'or, ensuite dans ce qu'on appelait des missions de vitamines, où on envoyait les gens qui n'étaient plus capables de travailler. Il a fait des séjours à l'hôpital, au camp disciplinaire, je vous passe tous les détails, parce que c'est à chaque fois, il s'est enfui, il s'est retrouvé au cachot, encore de nouveau un gisement disciplinaire. Et en 1946, il a été sauvé donc par des médecins et il a pu commencer à suivre des cours d'aide-médecin. Et là a commencé sa remontée des enfers, si je puis dire.
Et il est revenu à la vie dans cet endroit. Je crois que ça lui a quand même beaucoup plu. Il a pu recommencer à lire et puis imaginer aussi ce qu'il allait écrire en sortant des camps, si toutefois un jour il en sortait. Et c'est ce qu'il a fait jusque dans les années 60-70 avec les récits de la Colima, où il raconte à de très nombreuses reprises, dans de très nombreux passages, sa vie à l'hôpital de Débine. Et la chambre donc qu'il occupait au rez-de-chaussée a été transformée par la direction de l'hôpital dans un de ces petits musées qu'on trouve partout le long de la route des ossements, à la gloire de Chalamov, où on y trouve donc des photos, évidemment ses livres, mais aussi un tas d'objets qui a été récupéré sur la route ou aux abords des camps, des pioches, des cuillères rouillées, des paires de godasses, et c'est le mot qui convient parce qu'elles sont en très mauvais état, qui sont exposées dans ce genre de petits musées, notamment dans celui de l'hôpital de Débine, qui est vraiment l'endroit même où résidait, où dormait Chalamov.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'il retrouve un état physique qui lui permet d'écrire, c'est vers la poésie qu'il se tourne d'abord. Il écrit d'abord des poèmes. Il est encore à la Colima à ce moment-là. Et ces poèmes sont très liés à la matérialité du paysage, à la neige, au froid, à la rivière gelée. Donc comme il dira lui-même par la suite, il tente de saisir, de comprendre la langue de la nature. Et à ce moment-là, il se demande encore si, après avoir vécu ce qu'il a vécu, il peut revenir, il peut retrouver les mots et revenir à l'écriture. C'est une question qui le taraude.
Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il trouve les situations justes, très diverses. Bon, par exemple, ces descriptions de la nature, ces moments où le détenu est face à face avec la nature, par exemple, bon, Campos, cette nouvelle, ou bien, je pourrais citer d'autres nouvelles, le pain nain. Surtout après que j'ai été à la Colima, j'ai évidemment mieux compris, enfin, toute la force peut-être, la saveur particulière de ces récits précis. Et puis évidemment, pour l'historien, la sociologie que Chalamov fait de l'univers goulagien est absolument passionnante et extraordinairement intéressante. Enfin, le monde des truands, le monde des citoyens ordinaires qui sont retrouvés au goulag juste pour une broutille et qui ne sont évidemment ni des droits communs ni des politiques, l'attitude des politiques et des truands enfin, entre eux, toute cette description des rapports au sein du camp, c'est une histoire absolument passionnante.
Il y a certains passages où il raconte comment ces récits, en fait, jaillissent de lui comme quelque chose d'irrépressible, comme des cris. Il dit chaque récit est un cri. Donc il ne s'est même pas posé la question courage ou pas courage. Il savait qu'il ne pourrait pas les publier. Même peut-être qu'il a espéré un petit peu au moment où est paru une journée d'Ivan Denisovitch, quand il y a eu un petit peu l'impression, le dégel et une impression que peut-être on allait pouvoir publier quelque chose, mais je pense qu'il ne s'est jamais fait aucune illusion sur la publication de ses récits. Il les écrivait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement et parce qu'il était hanté par ce qu'il avait vécu, qu'il ne pouvait s'exprimer que d'une manière artistique, en fait. C'était la seule façon, voilà ce qu'il sauvait, en fait.
Assez vite, Chalamov dit « J'aimerais écrire 100 récits ». Donc il prévoit une sorte d'édifice, de construction. Finalement, il en écrira plus. Donc assez vite, il a quand même une idée d'un édifice où les textes doivent se répondre. Il y a des récits dans lesquels est décrit le camp précis dans lequel se trouve le protagoniste, et qui est limité par sa vision à lui. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là, on se rapproche le plus du document, c'est-à-dire c'est comme une photographie ou voilà, comme s'il filmait ce qu'il voit autour de lui, donc avec des images très précises, très fortes. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y aura d'autres strates qui permettent davantage de comprendre ce qu'est le camp. Chalamov va intégrer à ses récits la question de la mémoire, par exemple. C'est-à-dire comment faire mémoire de ce qu'il a vécu, comment s'en souvenir, comment ne pas oublier. On sent l'actualité qui arrive en filigrane. D'abord l'actualité du 20e congrès, puis la déception par rapport au 20e congrès, puis la compréhension du fait que cette mémoire sera effacée. Voilà, par exemple, des récits lorsque Chalamov commence à faire des démarches pour obtenir une retraite, alors qu'il a passé 17 ans dans les camps. C'est comme si pendant 17 ans, il n'avait pas travaillé. Donc il cherche à faire valoir cette période des camps en tant que période qui compte pour la retraite. Il reçoit de Magadan une réponse disant qu'aucun document n'atteste sa présence dans les camps pendant ses 17 ans. Donc il en déduit que tout a été détruit, que toutes les traces ont été détruites. Et donc il y a à la fin des années 60, apparaît cette idée d'effacement des traces.
Chalamov a eu vraiment une destinée tragique concernant son œuvre, parce que il n'a pu publier qu'une toute petite fraction minimale de son œuvre de son vivant. Il y a eu quelques récits qui ont été publiés au compte-gouttes, si l'on peut dire, au moment du dégel khrouchtchevien, surtout au début des années 60. Et ensuite, donc, il a dû recourir, comme un grand nombre d'écrivains soviétiques non autorisés, non reconnus, à écrire, accepter que son œuvre ne soit publiée qu'à l'étranger. Sous la pression, il a même dû renier ses éditions à l'étranger, qui étaient d'ailleurs très mal faites, puisqu'au fond, ce n'était qu'une partie de ses textes. Il y avait toute une série de lacunes, d'erreurs, etc. dans la publication. Bon, et on sait que malheureusement ces dernières années de vie ont été extrêmement difficiles, extrêmement malheureuses. Enfin, elle était absolument d'une réduite à la misère la plus totale et a passé ses dernières années dans un hospice de vieillard dans des conditions absolument épouvantables.
On a quelqu'un qui, finalement, n'est pas publié, qui n'aura ni prix, ni gloriole, ni article, absolument aucune reconnaissance de qui que ce soit. Et encore, sur le tard, à la toute fin, il apprendra que quelques éditions circulent à l'étranger, mais enfin, lui-même ne verra rien. Et pourtant, on a quelqu'un qui va tenir en joue le destin et qui va, malgré tout, pour lui, pour tout le monde et pour personne, écrire une aventure qui est l'aventure de millions d'êtres.
Les dernières années de sa vie, on sait qu'il a été mis dans un asile de vieillards et que dans cet asile venaient le voir des journalistes, puisque à l'époque, certains des récits de la Kalima étaient sortis en samizdat, de manière clandestine de Russie, avaient été publiés en Occident. Et donc, il y avait des journalistes, des occidentaux qui étaient venus le voir dans cet hôpital. D'après ce que je sais, on l'a transféré un peu en urgence, en plein hiver, dans un hôpital psychiatrique, où il est mort peu de temps après. Donc, de toute façon, la fin de sa vie a été absolument horrible. De ce que j'ai entendu dire, c'est que, en fait, il avait un peu perdu la tête, il cachait son pain, il pensait qu'il était revenu en camp, il cachait son pain sous son matelas.
Jean-Pierre Thibaudat, au micro de Christian Giudicelli, en 2002.
Moi, je suis parti sur ces traces, comme ça, j'ai rencontré des amis à lui. Alors là, on a l'impression, effectivement, dans ces cas-là, de toucher quelque chose de très vivant et qui touche au génie. J'ai vu quelqu'un qui m'a raconté l'histoire de l'enterrement, par exemple, de Chalamov, qui est mort dans des conditions absolument atroces, où il avait été mis quasiment d'office dans une sorte d'hôpital psychiatrique. Deux jours après, il est mort dans un sens d'épuisement, je dirais. Et dans le car qui conduisait les amis, enfin, bon, en gros, le milieu de la dissidence, quand même. Hein, c'est, là-bas, il y avait le chauffeur avait un portrait de Staline, comme ça. Et l'un des amis de Chalamov va voir le chauffeur, lui dit tu sais qui est-ce qu'on enterre? Et le type a tout de suite arraché le portrait de Staline et il a continué.
В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил летом, когда запасал дрова на зиму. Сушняка вокруг избы было много. Конусообразные лиственницы, серые, как из папье-маше, были натыканы в болоте, будто колья.
Dans la taïga, j'avais un sentier merveilleux. Je l'avais frayé moi-même l'été, en faisant provision de bois pour l'hiver. Il y avait beaucoup de bois mort autour de l'isba. Des mélèzes de forme conique, gris comme du papier mâché, étaient plantés dans le marécage, tels des pieux. L'isba se trouvait sur une colline, entourés de buissons de pins nains, avec leurs pinceaux verts chargés d'aiguilles. À l'automne, leurs cônes gonflés de graines inclinaient les branches vers le sol. Le sentier qui traversait ces broussailles de pins nains débouchait sur un marécage. Jadis, à cet endroit, se dressait une forêt. Puis les racines avaient pourri, recouverte d'eau, et les arbres étaient morts. Il y a longtemps, longtemps. La forêt vive s'était retirée sur le côté, au pied de la montagne, vers le torrent. La route pour les véhicules et les gens passait de l'autre côté de la colline, plus en hauteur, sur le versant montagneux. Ce sentier qui était à moi seul, je l'ai parcouru durant près de 3 ans. Là, les vers me venaient facilement.
Merci à Michael Prazon, Nicolas Vert, Luba Jürgensson, Stéphane Barsac, Sophie Benesch. Lecture, Magali Montoya. Prise de son, Florent Bujon, Xavier Lévesque, Ludovic Auger. Mixage, Cédric Chatelus. Archivina, Clary Monac, chargée de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin et Christine Bernard. Varlam Chalamov, Les sentiers gelés de la Colima, un documentaire de Laetitia Leguet réalisé par Franck Lilin.